Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Quel est le point commun entre Léonard de Vinci, Marie Curie, Eddy Lamar, Michel-Ange, Einstein, Colette, Pasteur, Mozart, Alan Turing ou encore Steve Jobs? Ils sont unanimement considérés comme des génies. Leur créativité est l'une de leurs marques de fabrique. Mais comment devient-on un génie? D'ailleurs, n'est-on génial ou le devient-on? Quels sont les ingrédients indispensables, les conditions nécessaires à l'émergence du génie? Leur exemple peut-il nous inspirer au quotidien? Quelles leçons en tirer pour libérer notre potentiel créatif? Existe-t-il un lien entre le niveau d'intelligence et le génie? Et puis, quels sont les liens entre la folie et le génie? Le stéréotype du génie torturé est-il un mythe ou une réalité? Élément de réponse ce matin en compagnie de nos invités, le psychologue José de Valverde, le psychiatre Patrick Lemoine et le designer Guillaume Lamar. Racontez-nous vos éclairs de génie ou les génies que vous avez côtoyés dans votre vie. 01 45 24 7000 sans oublier l'appli France Inter. Bonjour Gonaël Boulet.
Bonjour.
Génie de la parentalité qui s'est couché très tard après avoir regardé le match Djokovic-Nadal.
Évidemment. Évidemment.
Vous nous proposez votre chronique Ma vie de parent vers 11h20.
Oui, on va parler du non-génie ou du non-talent de nos enfants.
Ça promet. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Mon idole. Mozart. Depuis toujours, je connaissais son nom. J'en étais encore à des jeux d'enfants que lui jouait déjà de la musique devant les rois, les empereurs, même devant le pape à Rome. Moi, j'avais un rêve, et ce rêve était de devenir comme Mozart.
Le génie de Mozart raconté par Salieri dans Amadeus de Miloš Forman. Bonjour José de Valverde.
Bonjour.
Vous êtes psychologue spécialisé dans le haut potentiel intellectuel, chargé d'enseignement à l'université Paris-Cité. Et vous publiez chez Humaine Science avec Todd Lubart, Les secrets des génies. Bonjour docteur Patrick Lemoine.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, écrivain. Et vous publiez chez Odile Jacob, La santé psychique des génies, génie du bien, génie du mal. Bonjour Guillaume Lamar, bienvenue.
Bonjour Ali. Bonjour Ali.
Vous êtes le fondateur de l'agence de communication Sherkan Conseil et vous avez publié chez Pyramide La voix du créatif. Alors dans le Robert, génie est un mot dérivé du latin genus qui signifie d'abord divinité qui engendre. Le génie c'est d'abord l'esprit qui préside à la destinée d'un lieu, d'une collectivité, d'une personne. C'est aussi un être surnaturel. Le génie c'est l'aptitude supérieure de l'esprit qui rend quelqu'un capable de création, d'invention, qui paraissent extraordinaires. Et pour vous, José de Valverde, qu'est-ce que le génie? Et qu'est-ce qu'un génie?
C'est une question fondamentale. D'ailleurs, et c'est bien de commencer par là. Avant de parler des génies, essayons de savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Bon, déjà, il y a un consensus. Le génie, il y a trois choses fondamentales à comprendre qui peuvent faire consensus chez la plupart des chercheurs. C'est que d'abord, il y a nécessairement une capacité à créer qui est exceptionnelle. En gros, ce sont des gens qui ont un potentiel exceptionnel. Mais il suffit pas d'avoir un potentiel. Sinon, ce serait trop simple. Il faut que ce potentiel puisse se réaliser. Il faut que le génie lui-même puisse s'exprimer. Et là, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il faut déjà, d'une part, que le créateur ait la volonté d'agir. Et c'est ce que nous, on a travaillé avec Todd Lubart, et qu'il réalise son œuvre. Sinon, vous comprenez bien que nous aurions énormément de gens exceptionnels. Mais non, s'ils sont exceptionnels, c'est qu'il y a bien cette condition essentielle. Il faut que le potentiel se réalise. Et puis ensuite, il faut un consensus pour reconnaître ce qui a été créé, sans quoi on ne peut pas parler de génie. Donc, même si c'est reconnu a posteriori. Donc, on pourra reparler d'exemples, bien sûr, dans ce sens. Mais voilà, ces trois conditions sont absolument fondamentales.
Qu'est-ce qu'un génie, Patrick Lemoine?
Avant tout, Ali, je dois vous présenter des excuses très plates. Parce qu'en rentrant dans le studio, je me suis aperçu avec horreur que vous n'étiez pas sous la couverture. Et donc, il va falloir envoyer au pilon 250 000 exemplaires pour restituer la place qui vous revient.
Plus sérieusement, qu'est-ce qu'un génie pour vous?
Ah, c'est sérieux. Un génie, ça vient effectivement de l'étymologie qui engendre. Générer. Et donc, un génie, c'est quelqu'un qui engendre un truc complètement nouveau, qui se fiche de tout ce qui s'est passé avant et qui fait du neuf. C'est pour ça qu'on pourrait dire, par exemple, que Dieu, c'est le premier des génies, et ça a donné le mot djinn, par exemple, en arabe.
Le propre des génies, c'est qu'ils ont fait progresser l'humanité à grands pas, ils ont révolutionné notre connaissance du monde, de la terre, de l'être humain. Ce sont des visionnaires qui ont accompli de grandes et belles choses, même s'il existe, bien évidemment, des génies du mal.
Oui, il y a des gens qui ont été très créatifs dans le mal, mais c'est peut-être pas le sujet du jour. Mais on voit des génies dans tous les domaines.
L'aspect visionnaire, c'est fondamental.
Je suis même allé jusqu'à parler de Zinedine Zidane comme génie du foot. Alors c'est la pression de mon environnement, parce que le foot est un univers qui m'est un peu étranger. Et pourtant, en regardant sa biographie, ce mec, effectivement, est génial dans son domaine. Et ça peut être considéré aussi comme un exemple qui a changé le paradigme au niveau du foot.
Guillaume Lamar, c'est quoi pour vous un génie?
Alors un génie, déjà... Avant de se poser la question du génie, c'est se poser la question de la créativité. La créativité, c'est une science de la relation, de la connexion. Donc en fait, un créatif, c'est quelqu'un qui prend deux éléments qui existent déjà, qui les rassemble et qui crée quelque chose de nouveau. Et du coup, un génie, c'est quelqu'un qui a réussi à développer une forme de sixième sens, en fait. Il a une intuition créatrice qui est... plus avancé que les autres. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est capable de réinventer le langage de son domaine. Donc, en fait, il s'appuie sur ce qui a déjà été fait, d'une manière ou d'une autre, mais il le réinvente complètement.
Et oui, José de Valverde, le point commun entre Marie Curie, Hypatie d'Alexandrie, Mozart, Shakespeare, Steve Jobs, eh bien, c'est leur créativité.
Alors, je dirais, c'est vrai, il y a leur créativité, mais je dirais, il y a aussi leur vie. Ce sont des gens... Et ça, c'est très important, je dirais, du point de vue psychologique, de comprendre que leur vie est quelque part une œuvre. Ce sont des gens qui, très tôt, vont travailler à construire leur vie. Vous savez, moi, je me suis aussi intéressé, évidemment, il y a beaucoup de prix Nobel. Si on regarde François Jacob, par exemple, vous lisez François Jacob, il vous explique très vite que lui, il a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, mais ça ne suffit pas. Il a ce qu'il appelle la statue intérieure, cette force d'aller au-delà de ce qu'on croit être vrai. Nous, ce qu'on a appris aussi des génies, je me permets d'insister là-dessus, c'est que ce sont des gens qui sont en avance dans le sens où ils captent des choses que nous, on ne peut pas capter, et y compris, nous, on est tellement dans cette pensée rationnelle, j'ai à dire, de choses qu'on croit être vraies. Et eux, ils remettent complètement en question ces choses-là. Donc, c'est pas seulement... Enfin, la créativité, c'est quand même de remettre en question les choses, mais c'est aussi une vie de ces gens qui est très intéressante et qui nous montre que leur parcours peut nous inspirer sur certaines dimensions, sur certaines dimensions, pas toutes, bien évidemment.
C'est ce que vous montrez, Patrick Lemoine, dans votre livre, à travers les portraits de génie que vous esquissez dans votre livre.
Tout à fait. On a parlé d'intuition tout à l'heure et je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire, pour avoir du génie, il faut être capable d'avoir des intuitions géniales. Et selon moi, c'est lié à des gens qui ont des espèces de brèches entre leurs parties complètement affectives, celles qui se fichent des dogmes, celles qu'on a quand on rêve, puisque quand on rêve, on est tous géniaux, finalement, même si on est complètement fou et qu'on est délirant avec des hallucinations, le rêve, c'est un moment de génie. Et donc, ces gens qui sont capables de faire ces brèches intuitives entre ce qu'on appelle à tort l'inconscient et le rationnel, l'irrationnel affectif et le rationnel cartésien, mais ce sont ces gens qui peuvent construire à partir du moment, effectivement, où ils ont cette volonté, et surtout à partir du moment où ils peuvent s'asseoir sur les dogmes. Et ça, c'est essentiel. Ce contre-fiche de ce qui a été dit avant, Einstein rêve qu'il est sur une luge qui va à toute allure et que les étoiles vont très très vite alors que sa luge dans le ciel fonce aussi. Il met ensemble le temps et l'espace, ce qui était inconcevable à l'époque. Il s'est assis sur toutes les autres théories euclidiennes, physiques, etc. Et il a fait la relativité. Donc c'est ce mépris, si on peut dire, pour les dogmes d'auparavant, qui est aussi une des marques du génie.
Guillaume Lamar.
Oui, deux choses pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, en effet, il y a une façon de révolutionner ce qui a déjà été fait avant, mais il y a aussi une très grande connaissance et un très grand respect de ce qui a été fait auparavant. Ah oui. Donc c'est à la fois un très grand attachement au savoir-faire, et puis en même temps, une capacité à le réinventer complètement. Et juste pour rebondir sur l'histoire de la vie créative, en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec les génies et puis avec les grands créateurs, c'est que on pourrait croire que l'art est une métaphore du monde, mais pour eux, c'est le monde qui est une métaphore de l'art. Et en fait, tout ce qui les entoure devient une matière première et une solution pour connecter des choses. Donc c'est ça qui est assez intéressant et ça nécessite un investissement total dans son domaine.
Alors José de Valverde, ce que vous montrez très bien dans votre livre, c'est que les génies peuvent nous inspirer, du moins leur créativité. Il est donc possible de stimuler notre créativité par le biais de certaines activités et c'est ce que montrent de plus en plus d'études scientifiques.
Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, quand on a travaillé sur ces grands personnages, on s'est rendu compte que tout le monde a des graines de génie. On a tous des graines de génie. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Très souvent, ils ont une forme de clivage en disant « mais ça, ce sont des gens hors normes, c'est pas pour nous, ils sont admiratifs ». Et puis on se rend compte, quand on regarde de près, que tout le monde peut faire preuve d'audace. Et je vais aller même plus jusqu'au bout du raisonnement, si vous me permettez. Beaucoup de gens sont dans une zone de confort, on pourrait dire. Je pense à ce que décrit Philippe Gabillet dans son ouvrage « Éloge de l'audace ». Et pour peu qu'on s'en donne la peine, on peut faire des choses incroyables de notre vie. Mais c'est à nous de décider. Et c'est à nous de sortir d'une forme de conformisme qui nous est quelque part, qu'on a d'une certaine façon choisi et d'autre part, qu'on croit être finalement sécurisante. Et ça, alors là, c'est terrible. Parce que si je peux m'exprimer, surtout en cette période où alors là, carrément, on a tellement d'injonctions de tous les côtés pour savoir comment on doit vivre, comment on doit penser, bientôt bon, comment on doit dormir, des matelas connectés, il y a plein de choses maintenant. Donc du coup, il faut sortir de ça et s'autoriser à être impertinent, à retrouver cette liberté, à reprendre le contrôle de notre vie, je dis bien le contrôle de notre vie, pour enfin accéder à des choses qui peuvent nous épanouir. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont très heureux, je ne dis pas le contraire. Mais quand on parle de génie, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir qu'ils allaient au-delà de cette espèce de facilité dans la façon de remettre en question les choses, y compris, quelquefois, dans certains cas, au détriment de leur vie personnelle. Mais ils y trouvaient une gratification. C'est ça qui est intéressant.
Guillaume Lamarre.
Oui, au cœur de cette audace, en fait, il y a la non-peur, ou en tous les cas, apprivoiser l'idée qu'on puisse se tromper. En fait, et ce qui différencie aussi un génie, et c'est pas pour rien que c'est souvent les derniers de la classe ou ceux qui étaient des cancres, c'est que ils ont pas peur de se tromper. En fait, ils ont l'habitude de ce processus créatif dans lequel on est obligé de tenter des connexions qui vont pas marcher. Et ça, c'est une très grande force. Et c'est justement ce que nous empêche de faire nos sociétés actuellement.
Docteur Lemoine.
Alors, c'est vrai qu'il faut avoir de l'audace. Mais je pense que si on était tous audacieux, le monde, ce serait un chaos indescriptible. Je vais prendre un exemple très simple. Vous regardez les publications mondiales au niveau de la science, INSERM, CNRS par exemple. Vous avez 999,99 sur 1000 publications qui ne font que confirmer de manière relativement, même totalement conformiste, ce que de temps en temps, une pépite a trouvé de génial. Dans l'art, c'est pareil. Vous avez presque tout le temps des suiveurs, des gens qui ont fait comme les impressionnistes, qui ont fait comme les pompiers, qui ont fait comme Botticelli, comme d'autres. Puis il y a eu un Botticelli qui a fait un truc tout à fait nouveau. Donc il nous faut quand même des suiveurs, en tout cas en science, pour confirmer ce que les génies ont créé, ont concocté dans leur incroyable audace, mais surtout pas un monde de génies, j'en supplie.
Oh oui, non, bien sûr. Mais je vais compléter parce qu'en fait, nous, et c'est justement là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, on a montré aussi que c'est une interaction entre beaucoup de facteurs. Il ne faut pas penser que l'audace à elle seule ou la persévérance va faire de quelqu'un un génie. Il ne faut surtout pas le penser parce qu'effectivement, comme vous dites, l'audace, trop d'audace et une audace mal régulée est dangereuse. Mmh. On prend des risques inconsidérés. Et on a travaillé sur cette question du dosage. Je prends un exemple. Trop de confiance en soi, ce n'est pas bon non plus parce qu'on va se surestimer et on prend des risques. Et là, par contre, on est sur une zone où on peut glisser, on peut se faire très mal. Donc il faut faire attention à ce juste dosage de ces ingrédients comme dans une recette de cuisine, pardonnez-moi la comparaison, mais ces ingrédients de la créativité ont tous une importance, mais c'est une question de dosage et ça bouge. Ça bouge parce que, si je peux me permettre, par exemple, nous, là, sur Van Gogh, on peut observer que, par exemple, à un moment donné, la solitude stimule la créativité, mais trop de solitude, voilà, va diminuer la créativité.
Patrick Lemoine.
Oui, c'est tellement vrai ce que vous dites, c'est qu'il y a un mouvement qui s'appelait l'art brut, qui se passait dans les asiles psychiatriques, où les gens étaient enfermés, et de temps en temps, une fois sur un million, il y avait un type qui va sortir une œuvre géniale, comme Séraphine, comme Fusco, comme tant d'autres. Mais en effet, lorsqu'ils étaient totalement dans un monde autistique, ça devenait compliqué, même si certains autistes, de type Asperger, je pense un peu à Picasso, je pense un peu à Einstein, étaient capables de faire des trucs géniaux.
Vous me tendez une belle perche, docteur Lemoine. Une idée répandue veut que le génie soit lié à une forme de folie. José de Valverde, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Le génie favorise-t-il la folie ou au contraire donne-t-il naissance à un esprit génial? Je cite le psychiatre américain Mihaly Csikszentmihalyi, psychiatre américain, le stéréotype du génie, dit-il, torturé, est essentiellement un mythe créé par l'idéologie romantique. Vous êtes d'accord avec ça?
Alors, effectivement, on a un invité qui est effectivement spécialisé dans ces questions-là. Mais en tout cas, sur le rapport entre du génie à la folie, je pense à l'ouvrage de Philippe Brunon qui est intéressant sur ce rapport entre le génie et la folie. Beaucoup de créateurs, effectivement, et je pense à la bipolarité, notamment que Brunon a beaucoup travaillé la question de la bipolarité, ont finalement sont bipolaires, il y a des bipolaires, mais je pense que...
Docteur Lemoine,
on peut en parler.
J'ai envie de dire que chez les génies, on a tout. C'est-à-dire qu'il y a des génies qui sont vraiment frappés. En effet, il y a quand même beaucoup, beaucoup de maniaco-dépressifs, aujourd'hui appelés bipolaires, et on sait maintenant que le lien génétique, et j'insiste là-dessus, génétique entre intelligence, créativité et bipolarité, est établi sur des cohorte de millions de cas.
Par rapport à la population générale.
Donc le rapport entre le génie et la bipolarité ne fait aucun doute et les Léonard de Vinci ne se comptent plus parmi les génies. Les prix Nobel sont très souvent des bipolaires, de même que leurs cousins, ce qui montre la génétique de la chose. Et puis il y a aussi des génies qui peuvent être des Asperger, qui sont souvent plutôt du côté des mathématiques. On a eu il n'y a pas très longtemps comme candidat à la ville de Paris quelqu'un qui n'en fait pas mystère. Et puis il y a des génies qui vont parfaitement bien. Oui, pas osé le citer, je voudrais pas avoir des ennuis à France Inter. Mais il y a des gens qui vont parfaitement bien aussi, qui sont parfaitement équilibrés. Jean-Sébastien Bach, père de famille, tranquille, modeste, qui faisait le job, qui a jamais été en conflit, qui a jamais décompensé. C'est un génie, on va dire, psychologiquement normal. Donc on a tout dans le monde des génies.
Oui, je pensais juste à Virginia Woolf. Pour moi, c'est un très bon exemple. Effectivement, du rapport entre le génie et la folie. Mais ce qui est intéressant chez elle, en tout cas, c'est qu'elle elle nous permet de mieux comprendre ce rapport, je pense, en tant qu'écrivaine. Parce qu'on peut
l'autrice explorer. L'autrice de Mrs. Dalloway, notamment.
Oui, tout à fait. Donc, oui, l'étude de ces grands créateurs est extrêmement enrichissante. Parce qu'on peut, effectivement, sous l'angle de la folie, comprendre. Van Gogh, par exemple, c'est prodigieux. Quand on lit sa correspondance, on comprend beaucoup de choses. De cette extrême sensibilité, de ce chaos qu'on veut éviter en créant. Ça, c'est intéressant. Il y a évidemment des psychiatres qui ont creusé cette question, des psychanalystes, sur le rapport au chaos, à cet évitement de l'effondrement grâce à la création.
Oui, d'ailleurs, Van Gogh était assez probablement bipolaire, même s'il avait d'autres problèmes. Oui. Mais on voit que ce soit effectivement Virginia Woolf, que l'on voit Mozart... Ils étaient quand même extrêmement perturbés. Mais si je pense à Marie Curie, si je pense à Darwin, qui étaient physiquement malades tous les deux, qui avaient, pour des raisons, on va dire, extérieures, beaucoup d'épisodes dépressifs, c'était des gens d'un équilibre, d'une force morale, outre leur créativité, qui force le respect. Marie Curie, qui était dans un monde franchouillard, xénophobe, machiste, incroyable, elle a son deuxième prix Nobel, seule femme de l'histoire, deux prix Nobel. Le ministre de l'époque lui interdit d'aller en Suède pour le chercher. Elle y va et la presse n'en fait pas mention. Et tout ça, ça l'a pas empêché de monter un commando d'infirmières pendant la guerre de 14-18 pour sauver les poilus dans les tranchées. Donc il y a des gens très forts aussi.
Patrick Lemoine, avant d'écouter le disque, dites-nous pourquoi, au cours d'une journée, il peut nous arriver de connaître des éclairs de génie. Quand on fait la sieste, dans des états de conscience un peu modifiés, ou alors, à d'autres moments de la journée, le soir, sous l'emprise de certaines substances.
Oui, ou peut-être aussi en galante compagnie, parce que c'est un autre état modifié de conscience. Je crois que c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le génie est lié à ces brèches entre inconscient et conscient, affectif, raisonnable. Et lorsque la conscience se dissout, juste avant de faire la sieste, juste avant ou pendant un orgasme, ou, j'en parlerai pas sous l'influence de certaines substances licites, alcool ou illicites, effectivement, on est dans ces brèches entre ces deux mondes, ce monde qu'on n'est supposé pas connaître, mais qu'on connaît quand même. Et puis c'est vrai que pendant les rêves, on est parfois génial. Regardez Paul McCartney, rêve et il fait Yesterday.
Dans quelques instants, nous verrons si le fait d'être intelligent, doté d'un QI plus élevé que la moyenne, prédispose au génie. Ce sera juste après les Strokes, qui interprètent Someday à 10h25. But les Strokes interpréter Someday.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Comment devient-on un génie? Comment s'en inspirer pour devenir plus créatif dans sa vie quotidienne? Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Écoutons Eddie Lamar, actrice hollywoodienne, productrice et inventrice de génie. Eddie Lamar, qui crée un système destiné à protéger les communications entre les bateaux et leurs torpilles. Et cette invention est à l'origine de l'un des principes fondateurs du Wi-Fi, du GPS et du Bluetooth.
Howard Hughes s'est appuyé sur moi. Je trouvais que les avions n'étaient pas assez rapides. Pour moi, quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas. Les ailes, il ne fallait pas qu'elles soient carrées. Alors j'ai acheté un livre représentant des dessins de poissons et un autre représentant des oiseaux. Et j'ai pris le modèle des ailes du plus rapide des oiseaux avec celui du plus rapide des poissons. Je les ai dessinés ensemble et j'ai montré le dessin à Howard Hughes. Et il a dit « Tu es un génie ». Je ne travaille pas vraiment pour avoir ces idées. Elles viennent naturellement.
Extrait du documentaire consacré à Eddie Lamar d'Alexandre Adine avec la voix de notre réalisatrice Claire Destacan. José de Valverde, je rappelle que vous êtes psychologue et que vous publiez Les secrets des génies. Docteur Patrick Lemoine, vous publiez La santé psychique des génies. Guillaume Lamar, vous êtes l'auteur de La vie, la voix du créatif. Pourquoi aussi peu de femmes parmi les génies dans vos livres respectifs, José de Valverde?
Alors, pardonnez-moi, nous on a tenu absolument à parler de l'effet Mathilda.
Bien pourquoi, sûr. Pourquoi mais les... racontez-nous.
Voilà. Et en fait, les femmes ont
je vous provoque
ont été...
un petit peu.
Non, mais vous avez entièrement raison. Je pense qu'il faut le dire et il faut clairement le rappeler. Et nous, on a tenu vraiment à en parler dans notre livre. C'est que on a eu tendance à mettre de côté, malheureusement, la réussite des femmes au profit des hommes.
Eddie Lamar a été muselé. Son génie a été reconnu des années après ses inventions.
C'est effectivement cet effet Mathilda qui a effectivement joué pour que...
C'est quoi l'effet Mathilda?
C'est le fait que on est écarté, et clairement parlant, les femmes d'une forme de réussite reconnue, alors même qu'elles contribuaient, parce qu'il faut jamais oublier, je pourrais parler de la découverte de l'ADN, Rosalind Franklin a été écartée alors même qu'elle a contribué de façon fondamentale à la découverte de l'ADN, c'est quand même incroyable. Et donc ça, on l'a rappelé, il faut le rappeler aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et dans les génies femmes, bien évidemment, elles sont nombreuses. D'ailleurs, il y a des ouvrages qui sortent là-dessus, et j'invite nos auditeurs et auditrices à les lire. Voilà, donc on a effectivement des explications de ce côté-là, que nous, on a mis en avant.
Patrick Lemoine.
Oui, moi je parle d'effet d'Anne Pernell, qui était l'épouse de Nicolas Flamel, le génie de l'alchimie, et qui a eu sûrement un rôle prépondérant dans l'œuvre de Nicolas Flamel, et qui a été totalement oublié aussi, si on peut dire. Donc... en effet, on est dans une société patriarcale, machiste. Je suis profondément convaincu que les femmes ont autant de capacités de découverte et d'inventivité que les hommes, et que la plupart du temps, soit elles ont été muselées, soit elles ont été interdites, soit elles ont été détournées, comme Eddie Lamar, ou effectivement, on leur a fauché leurs inventions. Et ça, heureusement... Quand même, on voit de plus en plus, notamment dans le monde des arts, mais aussi des sciences, de génies femmes, tout à fait, on est dans la parité maintenant.
José de Valverde, le génie est-il indexé à l'intelligence au niveau de QI? Et question annexe, peut-on prévoir le futur génie d'un enfant dit à haut potentiel? Alors d'abord, est-ce que c'est indexé, l'intelligence et le génie?
Alors, déjà, il faut rappeler qu'effectivement... Vous savez, ça, on va remonter. J'ose pas, enfin, parler de Gall et de toute cette idéologie qu'il y avait autour de la forme du crâne pour déceler des capacités. Enfin, c'était terrible. Mais on a toujours cette espèce de fantasme de déceler quelque part ce qui nous permettra de prévoir le génie. Mais non, parce que c'était si simple. Eh bien, il y aurait déjà des actions cotées en bourse pour détecter les génies. Non, il y a tout simplement un cocktail très complexe qui permet un jour d'avoir un génie. Et dans le cocktail, effectivement, il y a des aptitudes qui peuvent être évidemment, l'intelligence, ça touche à tout, l'intelligence. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que l'intelligence garantit le génie. Non, puisque on en a parlé, il faut effectivement qu'il y ait un accomplissement créatif. Il faut qu'il y ait tout un cheminement. Il faut aussi que l'environnement intervienne. Très important, l'environnement. Il faut quand même rappeler, c'est l'idée de ce génie solitaire et romantique qui est battu en brèche par les chercheurs, c'est que, bon, même Mozart, hein, sans son père, on ne sait pas ce qu'il aurait donné. Donc, même si c'est quelqu'un d'immensément talentueux, sans son père, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc, à partir du moment où on sait que l'environnement est important, le QI à lui seul ne suffit pas. Et en plus, n'oublions pas qu'il y a en fait un haut potentiel créatif, un haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire que si vous prenez des recherches, vous allez rendre compte qu'il y a des gens qui sont pas très bons à l'école et qui sont très créatifs. Et ça, c'est important de le rappeler.
Patrick Lemoine.
Oui, je vais être même presque plus brutal, mais je connais des génies qui sont complètement cons, qui ont vraiment une intelligence dans les baskets, qui sont totalement créatifs dans certains domaines, notamment dans l'art, mais aussi dans les sciences. Et puis je connais des gens supérieurement intelligents qui n'ont aucune créativité. Je veux pas être méchant avec certaines grandes écoles, mais c'est assez rare finalement que ces personnes qui sont dans un moule assez conformiste. Or, on l'a bien dit, le conformisme est l'ennemi du génie. Et ces grandes écoles qui forment des gens supérieurement intelligents sont pas forcément des pépinières de génie.
Guillaume Lamar.
Oui, je vais juste rebondir sur... Moi, ça me fait penser à Lennon et McCartney, en fait, et ce duo, parce qu'on parle de McCartney comme un génie, mais Lennon était avec lui aussi. Et il y a ce côté pragmatique, en fait, qui, à un moment ou à un autre, doit nous faire revenir à l'instinct. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure le cerveau rationnel, en tous les cas, le cortex intervient là-dedans. Mais il y a toujours des temps où, en fait, on est inspiré, où on a plein d'idées qui viennent, et il faut les trier, ces idées. Et être capable de les trier, on peut le faire tout seul ou on peut le faire en duo. Donc l'importance de l'environnement, l'importance des équipes autour de nous est fondamentale.
Et Guillaume Lamar, pourquoi est-il important d'avoir des génies comme modèle? Vous, je sais que c'est Paul McCartney, Bob Dylan, Zidane. Pourquoi avez-vous besoin de ces modèles?
En fait, à mon sens, moi qui travaille dans le design et dans la communication, ils nous montrent une direction parce que ces génies-là luttent avec les mêmes peurs que nous. Et du coup, ils ont mis en place des éléments qui leur permettent de surmonter cette peur et de créer justement. Donc, ça va avec l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de leur activité et vis-à-vis du monde, les habitudes qu'ils ont mis en place pour créer un dispositif de création, leur savoir-faire. Donc comment ils ont travaillé leur technique, comment ils ont réussi à peaufiner leur art. Et puis enfin, la capacité à trouver des ressources et des sources d'inspiration, justement. Et le talent, justement, c'est de savoir trouver des maîtres que personne n'a trouvé auparavant. Quoi. Donc ça, c'est aussi une forme de génie.
Patrick Lemoine, quels sont les génies qui vous ont inspiré, qui vous ont donné des ailes?
Ah, moi, j'ai deux génies qui sont pour moi mes idoles. C'est Marie Curie et Darwin.
Pourquoi?
Parce que ce sont des gens qui ont révolutionné complètement la science de leur époque. Il y a avant Marie Curie, après, avant Darwin, après Darwin, qui ont été dans une adversité incroyable du fait de leur pathologie physique, de leur dépression récurrente à tous les deux, peut-être liée d'ailleurs à des causes physiques, à tous les ennuis. Darwin a perdu beaucoup de ses enfants, etc. Et ces gens-là ont gardé le cap. Par exemple, Darwin avait un abominable cousin qui s'appelait Galton, qui s'est servi de la sélection naturelle pour en faire une doctrine eugéniste, voire nazie. Et Darwin s'est totalement opposé d'un bout à l'autre à ce détournement de son idéologie. Il était anti-nazi, forcené. Et donc ce type qui était capable de totalement changer la vision qu'on a actuellement, plus personne ou presque, quelques états créationnistes américains ne contestaient l'évolution, eh bien était en plus un grand monsieur d'un point de vue humaniste. Et j'en ai autant pour Marie Curie, qui était une immense humaniste.
Et vous, José de Valverde?
Bah, écoutez, je partage avec Patrick Lemoine Marie Curie incontestablement, puisque, et je pense que c'est ce qu'il faut aussi retenir de tous ces génies, c'est que, en fait, aujourd'hui, nous leur devons quand même d'énormes progrès sur le plan médical, sur le plan scientifique. Et Marie Curie, on le sait, c'est un apport considérable en matière de radiologie, en matière de progrès dans beaucoup de domaines. Donc Marie Curie, par son audace, par sa motivation, pour cette femme exceptionnelle, oui, j'ai énormément d'admiration. Et de manière générale, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui ont contribué à notre bien-être aujourd'hui, et les gens l'oublient un peu, dans tous les domaines. Et puis ensuite, Van Gogh, parce que la passion de ces personnages hors normes me fascine, je pense que c'est quelqu'un d'incroyable.
Et pourquoi c'est important de se donner comme modèle des génies? Pourquoi c'est dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, pourquoi c'est si fondamental?
C'est fondamental pour nous, pour qu'on se comprenne mieux nous-mêmes. Parce qu'en fait, ces personnages hors normes nous amènent à mieux nous comprendre. Pourquoi ? Parce que nous, on est des êtres très complexes, finalement. Contrairement à ce que peut penser, on n'est peut-être aussi, pas aussi complexes que les génies, je ne vais pas dire ça, on est différents, bien sûr. Mais si vous regardez, en fait, tous les facteurs qui interviennent dans le génie, mais nous aussi, on est tributaires de ces facteurs-là. Et en comprenant ça, on peut peut-être agir. C'est ça qui me semble important.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, la créativité est l'une des bases du génie. Quels sont les ingrédients essentiels de cette créativité, José de Valverde?
Alors, c'est en fait des ingrédients qui sont comme... Encore une fois, je fais le comparatif avec la cuisine. Hein, ouais. Donc, du coup, effectivement, on a des facteurs cognitifs qui sont des connaissances, qui sont effectivement l'intelligence. On a des facteurs qu'on dit conatifs, c'est un terme un petit peu compliqué.
Ça veut dire quoi?
Conatifs, bah voilà, c'est la personnalité, c'est la motivation. On a des facteurs émotionnels, d'accord? Et on a des facteurs environnementaux. Et donc, chacun a un profil particulier sur cet ensemble de facteurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris que c'est des ingrédients, après, il y a des plats différents. Mais, en gros, tout le monde a ses ingrédients. Et donc, après, chez les génies, il y a un mélange exceptionnel. C'est vrai.
Et deux grandes qualités reviennent quand on étudie la trajectoire des génies. C'est la pensée divergente et la flexibilité mentale. Expliquez-nous un petit peu ces deux qualités indispensables. Pensée divergente, flexibilité mentale.
La pensée divergente, c'est la capacité à générer un certain nombre d'idées à partir d'un point de départ. D'accord ? On vous donne... par exemple, je sais pas, un thème, imaginez comment on peut utiliser une pince à linge et on va vous donner différentes utilisations de la pince à linge. Voilà. Ou autre chose. Bon. La flexibilité, c'est la capacité à s'ouvrir, à passer d'un thème à un autre et à ne pas, l'inverse serait l'agilité, si vous voulez, mentale. Voilà. Je pense que ce sont deux qualités absolument essentielles pour la créativité.
Et pour vous, il faut faire taire la petite voix qui peut nous susurrer, tiens, ça c'est une idée absurde. Il faut plutôt répondre, pourquoi pas? Et si c'était possible? Ça, c'est très important.
Ouais, tout à fait. Alors, la petite voix intérieure, malheureusement, elle agit trop souvent et elle limite les gens. J'appelle ça les pensées limitantes. Et ça, c'est terrible. Parce que ces pensées limitantes, si on les laisse faire, eh bien, on devient quelqu'un de totalement sage et qui ne fait pas grand-chose au niveau créatif. Alors, on est quelqu'un de parfaitement inséré, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'audace et en tout cas la flexibilité. Donc, oui.
Vous recommandez dans votre livre une gym des idées, parce que comme les muscles, la créativité, ça se travaille.
Oui.
Vous recommandez de faire de la recherche d'idées un jeu, en faire une distraction, faire feu de tout bois.
Oui, tout à fait. Bah, tout à fait. Écoutez, ça va depuis inventer finalement une petite nouvelle recette de cuisine, s'habiller différemment. Tous les jours, on peut faire preuve de créativité. Ouais. Les gens s'en rendent pas compte, mais on a mille occasions d'être créatif, y compris prenez une feuille de papier, commencez une histoire et puis vous continuez après. Vous allez voir, vous faites ça tous les jours, ça va vraiment vous faire du bien.
Moi, j'adore, par exemple, imaginer des vies secrètes aux inconnus que je croise. hier, sur le parvis du Louvre, j'ai vu un touriste d'une cinquantaine d'années qui faisait vraiment touriste avec son short et son gros appareil photo. Et ben, j'ai imaginé que c'était un agent britannique du MI5 en mission à Paris. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Guillaume Lamar, de faire fonctionner son imagination comme ça, de faire feu de tout bois?
C'est une excellente idée. Il y a deux petites choses qui nous permettent de commencer ce genre de réflexion. La première d'entre elles, c'est poser le « et si ». Et si ce touriste était un agent secret? Donc ça, c'est un moyen de commencer à faire des connexions. Et puis, j'en ai déjà parlé chez vous, Ali, il y a le fameux « oui et ». Et le « oui et » du théâtre d'improvisation.
Racontez-nous ce que c'est.
Ben, si je monte sur scène avec vous et que je dis « je suis un médecin urgentiste sur la planète Mars » et que vous me dites « bah non, c'est impossible, la pièce est terminée ». En revanche, si vous me dites « ah oui, mais ça c'est marrant, mais du coup, vous soignez les extraterrestres ou les astronautes ?» Et là, on commence à créer quelque chose. Et ce que ça veut dire, ça, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte. Mmh. Et la contrainte, la règle du jeu, est une des clés pour être créatif et il faut s'appuyer dessus.
Vous avez un autre exercice pour booster notre créativité, Guillaume Lamar?
Bah, j'en ai plusieurs. Il se trouve que justement, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui va sortir à la rentrée. Le premier, et que je trouve assez puissant, c'est de commencer par lever les yeux et de regarder quel est le premier objet que vous voyez. Et du coup, de démarrer votre projet en partant d'une de ses caractéristiques, soit sa couleur, soit sa forme, soit sa texture, ou l'une de ses fonctionnalités. Donc ça, c'est un point de départ qui est très très fort, et vous allez voir qu'on peut démarrer avec n'importe quoi, avec un mug, avec un livre, avec même un téléphone portable, évidemment. Et puis, j'ai un deuxième exercice, allez-y. Si vous voulez. Ce que j'aime bien aussi, c'est... vous savez, on trouve toujours des listes de courses égarées dans les rayons des supermarchés. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'en ramasser une et de suivre une recette en fonction des ingrédients qui sont inscrits dessus.
Ah, c'est très drôle. José de Valverde, comment les génies abordent-ils l'échec, les revers? C'est une caractéristique des génies, ça.
Oui, c'est fondamental. Je rappelle que l'échec, notre vision de l'échec, malheureusement, je dirais, est souvent contre-productive. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que l'échec, ça marque un point d'arrêt à ce qu'on a pu faire, alors que c'est un point de départ et c'est quelque chose absolument essentiel. Donc, du coup, beaucoup de génies ont connu l'échec, hein, que ce soit Darwin ou d'autres, hein, mais ils ont rebondi, ils ont avancé parce que c'était une étape dans leur parcours. Ça, c'est fondamental.
Au lieu de baisser les bras, les génies mettent tout en œuvre pour tirer profit de cet échec, transformer ces échecs en tremplin. Les génies ont ce talent d'identifier leurs forces et leurs faiblesses.
Absolument. Et ça, on ne le voit pas souvent. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Oui.
Et ils ont conscience que la réussite n'arrive jamais du premier coup.
Ah oui.
Donc, il y a deux autres qualités, l'opiniâtreté et la discipline, qui sont indispensables.
Ça peut prendre toute une vie, oui.
Patrick Lemoine.
Moi, je pense qu'une des choses qui stérilise le plus la créativité et le génie, c'est l'excès d'humilité. Parce que combien de personnes ont des super idées? Ils disent, non, mais ça, d'autres ont forcément eu la même idée avant moi. Ça a déjà été dit. D'autres sont tellement meilleurs que moi. Alors qu'effectivement, il faut avoir quand même une certaine estime de soi, une idée de soi suffisamment élevée pour être capable de dire, non, je suis désolé, exactement comme Paul McCartney, quand il s'est réveillé au milieu de la nuit avec cette mélodie incroyable, il a dit, c'est pas possible, c'est trop beau, j'ai déjà dû l'entendre. Et puis, au réveil le matin, il a dit, non, j'ai eu cette idée, et puis c'est très bon, et puis je vais en faire un best-seller mondial. Et souvent, cette culture qu'on a d'être très humble, très modeste, qui est une grande vertu, paraît-il, peut arriver à totalement annihiler des personnes qui, au contraire, ont un potentiel incroyable.
Guillaume Lamar, avant d'entendre notre génie de la parentalité, Gwenaël Boulay.
Oui, très rapidement, j'ai écrit un livre sur les chefs cuisiniers et comment leur façon de faire pouvait tous nous intéresser. Et j'ai rencontré un très grand chef qui s'appelle Michel Guérard. Et ça illustre tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il a survécu plusieurs fois, notamment pendant la guerre. Et c'est un type qui a une capacité de résilience qui est assez incroyable. Et il est capable, par exemple, d'associer des huîtres avec du café et de créer des plats qui n'ont jamais existé auparavant.
10h45. Qu'il est l'heure de retrouver ma vie de parent de Gwenaël Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Alors, puisqu'on parle de génie dans l'émission aujourd'hui, on parle bien sûr de vous, Gwenaël.
Oh, Ali, que vous y allez, n'en faites pas trop. Mais merci, je prends le compliment. Non, mais sérieusement, je ne sais pas ce que nous avons, les parents d'aujourd'hui, à forcément vouloir que nos enfants aient un talent. Cette envie qu'ils soient géniaux. Comme si pour réussir sa vie, il fallait absolument sortir du lot, se démarquer, être visible et remarqué. Tu l'as inscrit à quoi, toi? Nous, on l'a mis au petit violon dès 4 ans, comme ça, il pourra vraiment développer ses talents de musicien, tu vois. Non, parce que depuis qu'il est bébé, je vois bien qu'il réagit super bien à la musique. Je pense qu'il a un don, tu vois, c'est fou. Tu vois, quand on l'a appelé Wolfgang, on avait un petit pressentiment. Ouais.
C'est tellement vrai, Gwenaël. Bon, vous ne croyez pas au don, hein?
Si, bien sûr, je crois au don. Il suffit de mettre nos enfants à l'école, dans un club de sport, ou juste de les observer pour voir très vite que les enfants ont des aptitudes différentes. Et que même si tout le monde peut progresser à force de travail, certaines facilités, difficultés vont vite faire la différence. Mais bon, non, ce qui m'interroge vraiment, c'est ce besoin que nous avons de savoir nos enfants différents et originaux. Quelle est cette société dans laquelle être juste heureux ne suffit plus? Dans laquelle le bonheur simple serait même devenu suspicieux, comme si cela devait manquer d'ambition. Qu'être juste heureux, c'était un peu se contenter de peu. Non, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est identifier à l'intérieur de nos enfants une graine de talent. Et si possible, dans un domaine qui pourrait rapporter un peu plus tard de l'argent, de la célébrité. Si possible aussi que notre enfant ait le côté positif du génie. Parce que, être Mozart, Van Gogh, c'est sympa pour la postérité, mais ce ne sont pas non plus des vies qu'on souhaite réellement à nos enfants. En tout cas, je sais pas vous, Ali, mais moi, j'avais ni de grosses passions, ni de gros talents évidents, ni à 5, ni à 10, ni à 15, ni à 20 ans. J'aimais plein de choses, j'essayais beaucoup, je tâtonnais, je m'amusais, j'échouais parfois, je réussissais à d'autres moments, sans forcément briller, ni toujours persévérer d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en l'absence de réseaux sociaux, nous n'avions peut-être pas cette contrainte si pesante qu'aujourd'hui de nous démarquer pour exister via notre propre réussite ou celle de nos enfants.
Mais Gwenaëlle, le rôle des parents n'est-il pas de savoir détecter ce pourquoi un enfant est doué ?
Bah, je sais pas. En fait, peut-être que notre rôle de parent est justement de ne pas attendre de nos enfants de talents particuliers. Alors attention, hein, je fais pas là un éloge de la médiocrité ni de la flémardise. Je dis pas que nous ne devons pas les aider à développer le goût de l'effort, de la persévérance, les aider à faire des découvertes au sein desquelles ils vont peut-être se découvrir des centres d'intérêt, voire des passions, pourquoi pas des talents. Dans ce domaine, par exemple, une approche comme les intelligences multiples permet d'élargir un peu notre perception des choses. Parce que si on s'extasie facilement sur les intelligences de type logico-mathématiques, langagières, musicales, corporelles, on voit moins qu'un enfant qui a des facilités relationnelles, des facilités d'observation, de ressources intérieures aussi, dispose d'un talent tout aussi important. Donc oui, bien sûr, pour tenter de regarder avec bienveillance ce qui fait la personnalité de notre enfant, mais cela ne signifie pas qu'on attende forcément d'eux qu'ils soient originaux ou talentueux.
Et ça, c'est difficile hein, de renoncer à ça.
Ben, certains parents sont très doués pour laisser pousser en douceur et puis d'autres sont plutôt en mode agriculture intensive, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas si facile de renoncer à ses projections, à ses angoisses, à ses désirs de réparation, à cette envie parfois de préparer leur avenir malgré eux, sous prétexte qu'avec l'expérience, nous connaissons les pièges et les promesses de la vie. Donc laisser pousser, laisser éclore est peut-être le travail le plus difficile d'un parent, le plus exigeant. Un travail qui s'appuie sur des piliers fondamentaux, celui de la confiance en l'avenir, la confiance en soi, la confiance en eux, de s'octroyer le droit à l'audace, on en parlait tout à l'heure. Et par les temps qui courent, ce ne sont pas toujours les choses les plus faciles.
Commentaire, José de Valverde, vous avez écouté avec beaucoup d'attention. Alors, vous qui êtes un spécialiste oui. du haut potentiel intellectuel.
Alors justement, moi, le commentaire que je ferais, c'est qu'il ne faut surtout pas vouloir devenir un génie, j'ai envie de dire, parce que nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que l'objectif, ce n'est pas de faire de nos enfants des génies, c'est de leur permettre de développer une créativité qui est intéressante, et y compris une créativité quotidienne. Et on a cassé l'image, de ces génies inaccessibles. Non, non, il ne s'agit pas d'aller là-dedans. Et en plus, on est tout à fait, je suis d'accord avec vous, dans cette époque où il faut absolument que les enfants du violon à 2 ans. J'ai un fils musicien et c'est vrai qu'il faut qu'il commence tout la musique, mais quand même, il faut pas non plus vouloir que ce soit des Formule 1 et que ce soit les premiers. C'est ça le problème.
Patrick Lemoine.
Oui, d'ailleurs, dans un de mes autres livres, Éloge de l'ennui, j'ai été un peu élevé contre ses parents hyperactifs. À une époque, on vient de découvrir l'hyperactivité chez les enfants avec le HPI, parce que maintenant, en consultation, moi, je vois que des parents qui ont des enfants HPI, c'est extrêmement chic, ils ont tous en plus la maladie de Lyme. Donc, il y a comme ça un snobisme. Je crois qu'effectivement, ne pas désirer à leur place, faire le deuil de l'enfant idéal, de l'enfant parfait, c'est très bon conseil que vous venez de donner.
Ma vie de parent à podcaster sur l'appli et le site France Inter et à partager sur les réseaux sociaux. À suivre un ingrédient essentiel au génie, la passion. On en parle juste après. Donna Blouk interprète Solitaire. Donna Blue interprété Solitaire.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Comment devient-on un génie? Comment est-il possible de s'inspirer des génies pour devenir plus créatif dans sa vie quotidienne? C'est notre thème ce matin. Dans la lignée de votre chronique, Gonel Boulet, Daniel Denis nous écrit « On avait demandé à Arthur Rubinstein s'il avait rencontré beaucoup de génies dans sa vie et il a répondu « Non, mais beaucoup de parents de génies ». José de Valverde, je rappelle que vous êtes psychologue. L'une des caractéristiques des génies, c'est de faire preuve d'une volonté sans relâche. D'où vient leur volonté, leur énergie, leur motivation? C'est quoi leur carburant?
Bah écoutez, la volonté, elle a été comparée par certains chercheurs à un muscle. D'accord? Ça veut dire qu'on peut la développer. Donc la volonté, effectivement, tous ces personnages en hommes font preuve d'une grande volonté. Rappelons aussi que la volonté, c'est quand même important par rapport à ce qu'on appelle la motivation. Mmh. C'est un élément essentiel. Ça, on peut très bien avoir un but dans la vie et on passe pas à l'action. Du moins, on va pas jusqu'au bout. Donc la volonté, c'est essentiel pour arriver jusqu'au bout. Et Dieu sait si ces gens-là ont rencontré des obstacles. Donc ça, c'est fondamental. Ils ont tous cette volonté. Et on peut développer, nous tous...
Par exemple, comment?
Comment on peut développer la volonté?
Ouais.
Bah, tout simplement en se contraignant à faire des choses qu'on ne voulait pas faire au départ et qu'on les fait quand même. Vous voyez, par exemple, la régularité. Vous avez des chercheurs, Baumeister, par exemple, qui parlent de cette régularité alliée par exemple pour des explorateurs dans la jungle, se raser tous les matins alors qu'on n'a pas forcément tous les ustensiles. Il donne cet exemple là. Donc
Patrick Lemoine.
Oui, il faut parler des carburants du génie, effectivement. Et les carburants, le premier c'est l'argent, malheureusement. Le deuxième, je dirais que c'est l'envie d'être glorieux, d'avoir la gloire, d'être reconnu dans les générations ultimes, comme Hypatie, il est toujours connu, alors que...
Hypatie d'Alexandrie.
D'Alexandrie, ça fait 2000 ans. Et puis, parfois, ça peut être la morale aussi, envie de faire le bien. Et puis d'autres, il y a malheureusement des génies du mal, l'envie de faire du mal, pour lesquels certains, style Pol Pot, style Chaka Roi Zoulou, qui éventrait les femmes enceintes de son peuple, ont fait preuve d'une grande créativité.
Il y a une sacrée brochette de génies du mal dans votre livre, oui. Hein, Patrick Lemoine. Et la passion dans tout ça, José de Valverde, c'est l'une des grandes clés du génie et de la créativité.
C'est un moteur essentiel, la passion. On a parlé de Van Gogh. C'est un carburant absolument essentiel parce que ça nous permet d'aller encore plus loin et en plus la passion va nous permettre de limiter les contraintes puisque vous faites ça par plaisir, vous avez une forme d'obsession pour aller jusqu'au bout, donc vous ne comptez plus vos heures. Quelqu'un comme Michel-Ange, ou même s'ils sont payés, bien évidemment qu'il y a l'aspect pécuniaire, mais il y a cette espèce d'énergie sans limite qui les pousse à aller toujours plus loin. Voilà.
Et le hasard. Alors le hasard, la question du hasard, vous consacrez quelques pages à la sérendipité, ce don de trouver ce qu'on ne cherche pas, de faire des découvertes, des inventions, des créations accidentelles, le tout suivi bien évidemment d'une explication juste. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que pour que la sérendipité advienne, il faut être préparé, préparé. Ça n'advient pas comme ça.
Non, c'est ce que dit Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés, tout à fait. Ouais. Et ça se cultive, le réseau change. La chance se cultive. Et le hasard aussi.
Pasteur est certainement le meilleur exemple. Je crois que Pasteur était avant tout un génie de l'opportunisme. À savoir qu'il avait une immense culture scientifique. Il était capable d'ailleurs d'occulter certaines parties quand ça l'arrangeait pas. Il n'était pas toujours totalement honnête. Moins pire que Freud de ce côté-là, mais quand même.
Et pourtant, vous allez faire des amis avec les Freudiens qui nous écoutent.
Non, mais je dis pas que du mal de Freud, je dis aussi beaucoup de bien. Simplement, ce que je pense, c'est que Pasteur a été un génie de la sérendipité, parce que de temps en temps, il avait une préparation qui marchait pas, qu'il était prêt à acheter, puis il disait que finalement, peut-être ça pourrait marcher. Et puis il avait cette volonté, cette passion qui faisait qu'il était capable de saisir au passage cette chance. Et il l'a bien dit, effectivement, la chance, le hasard ne favorise que les esprits préparés.
Un dernier conseil, en quelques secondes, Guillaume Lamar, pour booster sa créativité?
C'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut cultiver sa disponibilité, en fait. C'est-à-dire que ce que je disais en début d'émission sur l'intuition créatrice, en effet, elle se nourrit, et elle s'est nourrie de ça, de cette disponibilité au monde extérieur, et de voir que tout est connexion, et qu'on peut relier plein de choses ensemble, et le mieux, c'est de relier des choses qui n'ont jamais été reliées auparavant.
Donc, voilà.
Oui, et puis je trouve ce qui était très fort, c'est à un moment donné, l'audace de croire que oui, on peut faire quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas fait. Ça ne veut pas dire que ça va révolutionner, mais c'est important d'avoir ce moment où c'est pas mal de se dire à un moment donné, tiens, je vais tenter, et oui, je peux peut-être réussir quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas réussi.
Merci à tous, merci José de Valverde, Les Secrets des Génies est publié chez Humaine Science. Merci Patrick Lemoine, La Santé Psychique des Génies, c'est publié chez Odile Jacob. Merci Guillaume Lamar, La Voix du Créatif, c'est publié chez Pyramide, toute la bibliographie sur l'appli et le site de France Inter. Demain, comment s'inspirer de l'art de vivre anglais à l'occasion du jubilé de The Queen Elizabeth. Déco, cuisine, jardin, dites-nous si vous aimez le style de vie british.